these are the times that try men's souls. In the course of our nation's history, the people of rallied bravely whenever the rights of man have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.
Eh bien, bienvenue sur le 93.6. C'est mardi, c'est l'heure de l'émission Des hauts et des bas. Hein. Tous les mardis de 18 à 19h, tous les samedis de 12h à 13h. La semaine dernière, on avait été rebaptisé et réquisitionné par les soulèvements de la Terre. Ça s'appelait Radio Terre-Paille. Voilà, aujourd'hui, on change de sujet. On change de sujet et on va parler de territoire zéro chômeur longue durée avec un acronyme barbare. Je ne sais pas si vous les utilisez. On est avec Delphine Benedetti, TZCLD.
Oui, bonjour, TZCLD, c'est bien ça. Bien. Maintenant, on arrive à le dire, nous. Mais au début, c'était dur.
Il faut vraiment le dire comme ça.
Oui, oui. Ben non, on dit territoire zéro chômeur. C'est plus court.
Et le LD pour longue durée.
Longue durée. Plus d'un an. Bon.
François, tu nous as concocté cette émission, ce sujet qu'on avait déjà commencé à effleurer une fois. Je me rappelle que François Ferris avait fait une émission sur le...
Oui.
Territoire zéro chômeur pour nous expliquer le principe. Mais je pense qu'on va devoir nous réexpliquer.
Je vais compléter.
Le principe.
Voilà.
Ben oui,
je ne sais pas si on va revenir. Enfin, on va aborder le principe. Mais en fait, ce qui nous motive et pourquoi on est présent ce soir avec Delphine Benedetti, qui est chargée de communication au sein de Coop. On va en parler. Donc, parce qu'il y a un peu une urgence là. Il y a une urgence avant.
On est en campagne.
Avant la fin du mois. Il faut avoir rassemblé des fonds nécessaires pour commencer une activité. On va en parler. Donc, à cheval sur le quartier du Sanitas et sur le quartier Velpeau, ce territoire va bientôt accueillir, si tout se passe bien, une nouvelle entreprise. Une entreprise à but d'emploi. Jusque-là, rien de bien original ou bien de particulier.
Oh, quand même, la notion de... Une entreprise à but d'emploi, j'avoue que il y a bien que quand on parle de ce genre de territoire chômeur longue durée, tout ça, enfin zéro chômeur, qu'on parle de ces entreprises à but d'emploi, sinon ça n'existe pas.
Effectivement, c'est un acronyme qui est pas courant, et on va expliquer en quoi ça a une particularité justement.
Voilà. Alors jusque là, rien de particulier à ceci près que ce dispositif territoire zéro chômeur entend répondre au chômage de longue durée. Donc, ma première question, c'est en quoi cette entreprise à but d'emploi ressemble ou se distingue d'une entreprise classique ?
Alors, une entreprise à but d'emploi, elle est là pour compléter les emplois déjà existants, les emplois manquants d'un territoire. C'est-à-dire que les emplois qui sont créés sont... des emplois supplémentaires, utiles, et surtout, ils ne font pas concurrence aux emplois déjà existants. Donc, ils s'insèrent dans le tissu, le périmètre donné, Sanitas Velpeau, pour voir ce qui manque après un cheminement avec les associations, les partenaires.
Mais c'est une société au sens société privée, enfin de droit privé
Non, c'est une association là actuellement, Coop, ça va être le nom de l'EBE. Coop est une association de préfiguration qui se transformera en EBE, en entreprise. D'accord. Après, c'est à nous, dans le bureau, de savoir si on veut en faire une SCOP, quelque chose de plus différent. C'est vraiment une entreprise classique. Et la grosse différence, c'est le rapport au travail. C'est-à-dire qu'on fait entreprise un peu autrement chez nous. Enfin, on va faire. Parce qu'on a réussi nos audits, on a reçu un avis favorable lors de nos audits. Donc là, on est en train de croiser les doigts et d'attendre sagement la décision du fonds d'expérimentation national qui nous a félicités pour notre travail. Et voilà.
Je croyais que vous alliez nous annoncer une très bonne nouvelle ce soir.
Eh ben non.
Parce qu'en fait, c'était suspendu pour l'instant. Vous n'étiez pas vraiment labellisé dans ce dispositif national. Mais ça se précise ?
Ah bah non, nous on sait qu'on a bien plu, on sait nous a dit que notre territoire était à bien des égards remarquable, mais maintenant on ne peut pas vendre la peau de l'ours.
D'accord.
Avant de l'avoir
on dit rien.
Tué, évidemment, on n'a pas le papier, hein, donc on dit rien.
Donc vous avez choisi de vous implanter ou de démarrer votre activité sur Sanitas Velpo, mais en fait, c'est pas vraiment Sanitas Velpo, c'est un petit bout du Sanitas et un petit bout du quartier Velpo.
C'est ça, entrecoupé de...
Mais pourquoi ce... Oui, avec la voie ferrée au milieu.
Avec la voie ferrée au milieu. Ben, en fait, historiquement, quand même, Sanitas Velpo, ça se ressemblait bien. Hein. C'était des maisons, des emplois autour de la rotonde et du ferroviaire. Donc, historiquement, on a trouvé que ça pouvait...
Mais c'était des maisons de cheminots, oui. Sanitas ? D'accord. Un peu comme à Beaujardin, du coup.
C'est ça, oui, ça allait jusque-là. Et la rotonde, c'est un endroit précisément où on faisait circuler les trains et où on les faisait se retourner pour prendre une autre voie. Donc Sanitas, 12e quartier le plus pauvre de France. Donc il y a un vrai travail sur les emplois à faire. Un collectif citoyen, il y a...
Parce qu'on gagne super bien sa vie quand on travaille pour une EBE.
On va en parler. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'y sent bien. En tout cas, on espère. On travaille pour ça. Nous, ce qu'on propose, c'est des CDI à temps choisi, payés au SMIC. Donc déjà, ça change beaucoup la donne quand on sait que 87% des emplois actuellement créés sont des CDD. Et parmi ces 87%, il y a 70% qui sont des réembauches de CDD. Bon, c'est difficile de voir l'avenir avec ses enfants, les loisirs, tout ce qu'on a à payer, son loyer, avec des CDD, concrètement. Donc nous, on fait le pari d'installer une stabilité pour les futurs salariés payés au SMIC à temps choisi, surtout parce qu'il peut y avoir des freins à l'emploi, comme le permis, là, c'est des emplois locaux.
À temps choisi, ça veut dire quoi ?
À temps choisi
par le salarié ou par le...
Par le salarié.
Ah merde, le patron ne peut plus rien faire.
Ah ouais, en fait, la flexibilité, elle se fait dans l'autre sens, là. On rend plus flexible, c'est beaucoup plus facile à dire, le rapport au travail du patron. Et c'est aussi comme ça qu'on a des résultats et qu'on a des gens motivés.
Et si personne ne veut travailler, alors, c'est parce qu'on...
Il y a 60 territoires qui ont ouvert en France. Ça n'est jamais arrivé. Voilà, donc on a des bons résultats en France, on est copié à Rome. Laurent Grand-Guillaume qui a porté cette loi en député PS en 2019.
Parce que ce dont tu parles là, c'est une généralité de tous les territoires zéro chômeur.
Et non, on est dans la troisième loi, c'est-à-dire que la première loi en 2016, pardon, elle portait sur 10 territoires. On a fait un essai sur 10 territoires. Bon, essai concluant, on continue, on ouvre à 50 autres territoires. Ils sont 60 et nous on est les derniers à arriver à être vraiment prêts et par contre il y a un petit cheminement institutionnel différent, c'est que ça va passer en Conseil d'État. Donc il faut attendre un petit peu plus longtemps si jamais on est habilité, voilà. Et puis en Touraine, Bléré a ouvert la porte. Blois vient d'être habilité et c'est aussi des territoires qui peuvent se rencontrer. Et vendredi, on va à Blois pour découvrir leur EBE. Et
entreprise à but d'emploi.
Non, oui, exactement.
Mais il y a eu un moment de doute là, au mois de septembre, parce que dans le projet de loi de finances, ce qui avait été annoncé comme enveloppe nationale, donc de mémoire, je me rappelle plus, je vais dire des bêtises. Et on a vu cette enveloppe fondre, c'est-à-dire perdre pratiquement 20 millions, je crois.
Oui.
Mais là, il y a eu
une mobilisation.
Une mobilisation qui s'est faite pour dire non, mais arrêtez vos conneries, parce que on a commencé à bosser là-dessus, vous n'allez pas nous empêcher de continuer. Quoi.
C'est ça, c'est un équilibre fragile tout de même. Hein. On est sur des fonds de l'État, un complément du département. Et puis ensuite le budget de l'entreprise, ce qu'elle produit, ce qu'elle vend, etc., ce qu'elle fournit comme travail. Donc on est sur un équilibre vraiment fragile. Donc si on nous retire des fonds tout de suite, on peut dire au revoir à certaines personnes, ce qui est insupportable.
Tu peux nous redonner quand même le principe de ces structures là, c'est d'employer des gens qui sont au chômage.
Oui. Sans emploi.
Sans emploi.
Durablement, c'est-à-dire plus d'un an.
Qui bénéficient d'allocations ?
Peu importe. Vraiment peu importe. Qui habitent depuis plus de 6 mois sur le périmètre donné. qui sont sans emploi et on les voit en entretien une première fois. On décide ensemble de ce qu'ils veulent faire, etc. La plupart du temps, ce qui ressort, c'est vraiment la polyvalence. J'ai pas envie de faire la même chose tout le temps. Bon. Je vous parlerai après de nous, ce qu'on a développé en termes d'unité de production. C'est très varié. Ça tombe plutôt bien. Temps choisi, ça veut dire, ben moi, mes enfants, je les ai le mercredi. Je ne peux pas bosser le mercredi. OK. Temps partiel ou pas. Les 15 personnes qui constituent le dossier d'habilitation qui vont démarrer l'aventure avec nous, globalement, on est sur des 80%, en fait. Donc, presque des
de temps de travail.
Et le montage financier, c'est quoi ?
La gouvernance financière repose sur ce qui sert au chômage, au RSA et à tout autre type d'aide et reversé à territoire zéro chômeur de longue durée.
Parce que au niveau national ou à votre EBE ?
Au niveau, l'État verse au fonds d'expérimentation et ensuite le fonds d'expérimentation fait des versements abonde les territoires.
En fonction du nombre de salariés ?
De personnes, oui.
D'accord. Et selon une règle, je suppose, un prorata de couverture du taux horaire ou...
Oui, en équivalent temps plein. C'est un peu complexe.
Mais verse la totalité ?
Oui, je ne saurais pas vous dire. Mais c'est un... Voilà, nous, on parle d'équivalent temps plein, c'est-à-dire que on va avoir un équivalent temps plein. Un tel va avoir 80%, va travailler 80%, va avoir les 80% de cet équivalent temps plein. Et puis, à côté, il y aura l'autre personne qui aura les 20%, etc. Et puis, ça va s'équilibrer.
Non, mais le fonds garantit l'entièreté des temps pleins. C'est-à-dire, vous êtes subventionné, entre guillemets, pour... chaque euro versé aux salariés ?
Alors, dernièrement, je crois qu'ils ont mis... qu'ils ont un tout petit peu, on est passé de 102 à 96%. Et si je vous dis pas de bêtises, c'est un peu ça. Et là, vraiment, si on n'est pas à 100%, ça nous a posé un souci. Du coup, je pense qu'il va y avoir des négociations auprès des départements, des régions pour compléter, pour aller jusqu'à 100%.
De toute façon, on va en parler après, là, mais il y a des prestations, il y a des services qui vont être rendus par l'entreprise. Et bien sûr, ces services, ils vont être facturés.
Oui, tout à fait.
Et comme ils sont facturés, il y a quand même une rentrée d'argent. Donc la clientèle va, bien sûr, donner de l'argent à l'entreprise. Et donc tout ça, ça sera dans le pot commun pour...
Pour compléter.
Pour compléter.
Oui.
Oui, mais il faut aussi couvrir les frais de la structure et donc des salariés qui ne sont pas directement pointés par ce fonds.
Effectivement, oui.
Toi, par exemple.
Alors moi, je suis complètement bénévole.
Non mais Pascal il cherche
pas du tout
Oui c'est vrai, on dit chargé de com, ça fait très officiel. Mais oui, je suis complètement, complètement bénévole. J'ai découvert l'aventure il y a un an. Je connaissais déjà tes ZCLD parce que pendant le confinement je me suis intéressée à ça.
Cherchais des acronymes bizarres à prononcer.
Exactement,
puis
et puis je me suis entraînée. J'ai regardé la chaîne YouTube des territoires déjà existants avec des vidéos, des témoignages. C'est vraiment passionnant. Tout de suite, déjà, on se demande comment c'est possible. Et puis, tout de suite, ça nous donne le sourire.
Alors, vous dites aussi que cette association-là, qui, alors, du coup, celle-là, elle existe. Donc, on redit son nom, c'est Co-Hop.
Oui.
Elle va proposer les emplois qui sont utiles au territoire.
Oui.
Pourquoi préciser utile au territoire ?
Parce qu'on n'est pas dans des activités, on ne fournit pas aux personnes des activités occupationnelles. On n'est pas là pour leur dire, tu sors de chez toi, sors de ton canapé et tu vas faire 7 heures dans la journée à rien faire. Nous, on veut qu'ils se sentent utiles. C'est ça aussi la dignité, le sentiment d'être utile, d'être rémunéré pour son travail et d'avoir un travail. Il y a eu toute une phase dans l'expérimentation qui a consisté à développer ce qu'on, dans la phase, on appelle ça des travaux utiles. C'est fait avec ces personnes, autre acronyme, PPDE, personnes privées durablement d'emploi, avec les différents PPDE qui ont commencé à entendre parler de cette initiative. Qu'est-ce qui manque à votre territoire ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Qu'est-ce que vous savez faire ? Et en fait, on est sorti 4 unités de production qu'on va créer. Une unité de recyclage, une unité de végétal, de service à la personne et la mobilité. Donc on appelle ça Recyclop, Mobilop, Cotidop et j'en ai Végétop. Voilà.
Et ça, ça part donc des besoins du territoire. Ça a été identifié par les habitants.
Par l'équipe, par les associations qu'on a rencontrées, d'accord, par les différents partenaires. Effectivement, quand on se balade au Sanitas, le végétal, il manque un peu. Mmh. En association avec d'autres partenaires du territoire, on a développé des friches, des ateliers autour des friches, des tomates ont poussé, on les a arrosées pendant la canicule cet été, etc. Et ça mobilise vraiment des personnes, en fait. On en fait beaucoup autour des friches. Et on espère un jour avoir des serres, mais on verra.
Parce que ce qui est inattendu, c'est que le vélo, il a quand même une image un peu CSP+, on va dire. Hein. Moi, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez proposer le vélo solidaire. Et ça, c'est parti aussi d'un besoin exprimé. Mais comment c'est arrivé sur...
Alors, c'est arrivé sur la table en groupe de travail. Des personnes nous ont dit c'est difficile des fois de se mouvoir parce qu'on voit des personnes âgées et ils ne peuvent pas forcément rentrer dans le tram, ça va trop vite, etc. De là, l'association de soutien, c'était pas encore Coop, c'était l'association de soutien, a loué un vélo-taxi et a fait un test dans le secteur. Ça a fait ça a fait vraiment une réussite. Beaucoup de personnes nous en reparlent.
C'est quoi un vélo taxi?
Un vélo taxi,
concrètement,
c'est un tuk-tuk en fait. C'est un vélo électrique où il y a un conducteur à l'avant et derrière il y a deux places qui sont protégées de la pluie, du vent. Et donc ça coûte un peu cher. Nous on a fait le choix d'en acquérir vraiment le 1. Ça coûte 12 000 euros. On a choisi un produit français, pas très loin d'ici. Et,
c'est quoi, c'est un Starway?
C'est un Youkler.
Un Youkler.
Voilà. Et ça montre à quel point tout ce cheminement vers une campagne de financement participatif a été co-construit. C'est pas nous qui décidons comme ça. J'ai envie de créer une start-up autour du vélo-taxi. Ça va certainement marcher parce que Non, c'est pas ça en fait qui s'est passé. On a vraiment fait une expérimentation, on a loué un vélo-taxi. C'était l'hiver dernier, les bénévoles ont eu froid, ils ventaient et voilà. Et ensuite, on nous en reparle. Donc on a voulu s'associer. Moi, j'ai été formée par la plateforme Effervescence qui est abondée par la métropole parce qu'il y a certains sujets qui lui sont chers, notamment la mobilité douce et bien vieillir, bien vivre. Et ce vélo-taxi, il va être solidaire parce qu'il va être à un prix raisonnable, mais aussi il est solidaire parce qu'il va être pour un public qui n'est pas CSP+, justement, des personnes qui veulent continuer à vivre à domicile, par exemple, des mamans avec leurs enfants qui font les courses, etc.
C'est pas évident de se lancer dans la conduite d'un vélo, on dit un vélo cargo, enfin un vélo taxi. Hein. Quelqu'un vous a aidé pour...
Oui, oui, on a pris beaucoup, beaucoup de vie, on s'est beaucoup renseigné. Ouais. Il y a un partenaire qui est bien implanté sur l'île, qui s'appelle Happy Move, qui nous a beaucoup conseillé. Notamment sur les amortisseurs, il faut une double batterie, il faut telle motorisation. Il n'y a pas trop de côtes à Tours, donc ça va, mais tout de même, il fallait une motorisation solide pour que nos travailleurs, en créant de l'emploi, on les crève pas trop.
Donc vous avez vu des territoires zéro chômeur longue durée déjà en fonctionnement. Coop a réfléchi. On a répondu à toutes les questions, mais sur la mobilité. Oui, du coup, on a anticipé sur la.
Et on va faire une petite pause musicale.
On fait une petite pause comme ça.
Parce que là, il y a quand même le nombre d'acronymes là. C'est terrible.
Il faut se reposer.
Là, faut être CSP plus hein, d'ailleurs. Hein. Et on va s'écouter. C'est presque d'actualité. On va s'écouter 49.3. C'est un groupe qui s'appelle Dalbéton qui fait ça. On supplie Enzo, le programmateur d'Ocar, quand il y a un groupe qui s'appelle Dalbéton, la moindre des choses serait d'essayer de les faire sur Ocar de Tours. Voilà, le message est passé. Dalbéton, 49.3. De retour sur le 93.6, Déo et débat sur la radio Béton. On parle aujourd'hui de territoire zéro chômeur longue durée avec Delphine Benedetti, la chargée de communication. Une petite question, tu rêvais depuis toute petite de t'occuper d'acronymes ou c'est venu sur le tard?
Alors je rêvais depuis toute petite de m'occuper des gens déjà. Donc, je suis devenue éducatrice spécialisée. Il y a beaucoup d'acronymes dans ce métier-là aussi pour les écrits professionnels, donc ça ne m'a pas choquée avec tes ZCLD, franchement.
Et donc, tu n'as ton travail rémunéré ne te prend pas assez de temps et tu as décidé de consacrer une autre partie de ton temps, de ton temps libre.
Ah oui, je suis très engagée dans plein de trucs. Là, je suis en période où je vais perdre mes droits à l'intermittence du spectacle parce que je ne suis plus éduxpé. Je me suis reconvertie, j'ai eu plusieurs vies. Et je n'ai pas fait assez d'heures là cette année, ce qui fait que je vais perdre mes droits et allez. Je vais certainement avoir un troisième métier dans pas longtemps. Voilà.
Très bien. Enfin, très bien.
Oui, très bien. Parce que c'est riche. Tous les engagements que j'ai, c'est très, très riche. Donc, c'est super.
On va revenir sur le vélo quand même, parce que c'était quand même un peu l'objet de Vélo Taxi.
Oui.
C'est un peu pour ça qu'on a que provoqué.
Tu l'as invité d'ailleurs, je peux le dire, invité. François.
Oui, tu aimes les vélos.
et provoquer cette réunion parce que on peut, nous, et les gens qui nous écoutent, là, les auditeurs, peuvent participer à l'aventure et participer au financement du vélo taxi.
Comment faire ? Alors,
oui.
Comment faire ?
Comment faire ?
Déjà, quand vous avez peu de temps et vous ne pouvez pas vous engager, vous pouvez donner. Donc, ça, c'est super. Votre don n'est pas défiscalisé, mais il est doublé par la région. Donc, vous donnez 10, c'est le don minimum. Nous, Coop, on récupère 20, donc c'est pas rien. Vous allez dans le moteur de recherche de votre choix, vous tapez « effervescence financement participatif » et vous tombez sur la plateforme. Une fois la plateforme ouverte, vous faites découvrir les projets. Et vous avez notre projet qui s'appelle « Pour un vélo taxi solidaire à Tours ». Il y a pas mal de petits projets qui sont en collecte actuellement, là, en fin d'année.
Mais tous les HOP dont tu as parlé tout à l'heure, là, ils sont pas actifs encore non plus.
Hein ? Tous les HOP ?
Oui.
Non.
Il y avait plein de HOP.
Il y avait des VGTOP. Oui. Non. Peut-être qu'on
ferait... c'est le vélo HOP qui est mis... Enfin, le taxi,
oui, c'est le vélo taxi qui a été priorisé. Oui, parce que c'est quand même une très grosse dépense. 12 000 euros, c'est pas rien. Et puis en plus, c'est celui qui a été le plus demandé.
Qui est le plus facile à vendre, peut-être en termes de recettes clients, si je puis me permettre d'utiliser cette expression.
Oui, c'est important en fait de penser. C'est pas un gros mot. L'équilibre budgétaire, il est quand même. On se doit quand même de réfléchir à ça, effectivement. Et si on a un coup de pouce au départ sur un investissement tel qu'un vélo taxi, effectivement. C'est pour ça qu'on a fait la campagne. Ensuite, vous faites contribuer et on a une offre spéciale en ce moment. C'est le fait que nos contreparties, donc on a des contreparties à 50 euros, à 25 euros, par exemple à 100 euros, vous avez une visite pour une personne en vélo.
Une balade à vélo.
D'accord. Eh bien, en fait, on divise tout par deux. C'est-à-dire que vous donnez 50, mais vous aurez la contrepartie du dessus. Donc allez-y, parce que c'est le bon moment pour le faire. Et notre deadline, la fin de la campagne, c'est 31 décembre. Donc, on a 20 jours, là. En général, ça
c'est pour le but, c'est de financer l'achat du...
C'est ça.
D'un vélo, de deux vélos, de...
Juste un.
Juste un.
Oui. Là, on est presque à la moitié du vélo.
Et pourquoi est-ce qu'il y a une deadline ? Parce que c'est bien d'en avoir une ou c'est une obligation ?
C'est une obligation de la plateforme. En fait, ils se sont aperçus que plus ça traîne, moins ça donne de résultats. Donc, autant que... Voilà. On a été prolongé une fois parce que c'est un gros montant. Fin d'année, hop. Ça a un sens. Les gens vont y penser.
D'accord. Et si vous avez assez d'argent... Vous allez vouloir...
Deux vélos.
Une flotte.
Déjà, on va essayer d'ouvrir. Ensuite, on va organiser tout ce petit monde-là.
Parce que pour un vélo, il faut combien de salariés ? Pas plus de deux, si.
Non, mais en fait, on aura plein d'autres activités. C'est-à-dire que la personne qui va faire du vélo le matin fera du végétal l'après-midi. C'est ça aussi, c'est des emplois polyvalents qu'on va créer. Ou alors simplement une course et puis en recyclerie l'après-midi, à refaire des selles de vélo, parce qu'on en parlera peut-être une autre fois, mais on va avoir un partenariat où on va refaire des selles de vélo à partir de cuir recyclé. Donc, il y a plein de choses à faire chez nous. Donc, pour l'instant, step by step.
On a un problème de sel.
On a un problème de sel. Parce que
dont je ne serais pas au courant, François. C'est quoi cette histoire?
De sel.
Ben oui, les sels s'usent facilement.
Voilà, je croyais que tu parlais de système d'échange locaux, mais c'était pas le sujet. Encore un acronyme. Sur le Sanitas, il y a un fourmillement d'associations qui œuvrent dans différents, notamment il y a le centre social évidemment, oui. Qui a une place très très importante. Il y a l'association Pipo, Passerelle aussi. Bon, est-ce que vous avez des contacts étroits avec ces associations?
Oui, oui, oui. En fait, Pipo, par exemple, a été un des premiers donateurs. Nos affiches et nos flyers sont chez toutes les associations qui ont été citées. Donc, bien sûr, de toute façon, le projet contient... les personnes qui font partie du projet sont des personnes du terrain. Donc, c'est aussi ça la clé. C'est, je passe à Pluriel ou je passe à Passerelle ou au centre de vie demain. Voilà. Donc, les relations sont vraiment faciles.
Donc, on a bien compris. Dès qu'il y a le vélo, il y a l'embauche de 1, 2, 3 conducteurs.
Non,
parce que...
dès qu'il y a le tampon du ministre du Travail. Ça, c'est le plus important.
D'accord.
Ensuite, on achète le vélo. Donc, ça devrait arriver vraiment fin d'année normalement.
D'accord.
La décision ministérielle. Et puis oui, on achète le vélo et on forme avec un collectif.
Donc il va falloir dire merci du SOP, c'est ça?
Oui.
Ça fait mal, non?
Pas du tout, parce qu'en fait, quelque part, il croit en nous. Non. C'est un soutien. C'est un soutien et au contraire, c'est aussi une façon pour nous d'avoir la chance de montrer que ça marche.
Donc on a cette première activité qui est là, plus les trois autres activités qui vont avancer aussi et qui vont se développer à terme. Alors donc en vitesse de croisière, combien vous espérez ou comptez avoir de vrais salariés?
Alors on a en équivalent
on
va démarrer avec 15 équivalents temps plein et on va finir l'année.
C'est énorme.
Oui, c'est déjà énorme. Oui, oui. Et dès que le BE ouvre, hein, tous les territoires voient ça. Hein. Dès que le BE ouvre, pour le coup, ça fait vraiment un appel d'air. Les gens y croient. Parce que là, en fait, depuis 3 ans, les bénévoles, Mina, Bruno, Béatrice et d'autres, veulent mobiliser des personnes privées durablement d'emploi, mais rien n'arrive. Là, une fois que c'est là, une fois qu'on ouvre, ils vont y croire. Donc, c'est sûr que ça va marcher. Et les prévisions fin d'année, c'est 35 ETP. Et prévisions sur 5 ans, parce que c'est une loi d'expérimentation qui dure 5 ans sur un territoire, on est à 122. Donc, on est ambitieux. Hein.
La fragilité du système, c'est comme dans tous les emplois aidés, c'est qu'il y a un moment, les financements... se calme, s'arrête.
Oui.
Voilà, on l'a vu hein, pour les employeurs, on l'a vu pour un tas de dispositifs qui existaient auparavant. Comment ça se passe là quand on peut plus?
Ben, jusqu'à maintenant, on a pu. Donc si on a le tampon du ministère du Travail, on a le tampon pour 5 ans. On a les financements pour 5 ans. Donc déjà, on aura des arguments sur 5 ans de notre travail et du travail des personnes privées d'emploi. Enfin, qui ne seront plus privés d'emploi, du coup. Qui seront des salariés comme tout le monde.
Concrètement, en ce moment... Alors, en attendant, concrètement, là, vous vous réunissez régulièrement. On peut éventuellement vous rejoindre?
Oui, vous pouvez nous rejoindre. On a besoin d'étendre le bureau. On monte en compétences. Donc, on a besoin d'étayer le CA. Parce
que pour manager 100 personnes, il faut... Ça demande du boulot. Hein.
C'est du boulot. Le bureau est composé uniquement de bénévoles, mais on a quand même recruté...
Surtout qu'ils vont se monter en syndicat, et puis ça va être le bordel. Hein.
Non, mais oui, venez, rejoignez-nous. En fait, on a une page Facebook coop-tzcld, désolé, c'est moi qui l'alimente. On aura bientôt un site, c'est pas encore fait, mais ça va être le travail de ces prochains mois où on va essayer de se faire connaître. On va faire un règlement intérieur aussi avec les futurs salariés pour que pour que ça soit de la co-construction, ça aussi. Et voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Et on espère, si tout se passe bien, une ouverture en mars-avril.
Sur le quartier du Sanitas, je l'ai oublié là, mais il y a quand même une association importante, c'est la Régie de quartier. La Régie de quartier, oui. Ils ont développé donc des chantiers d'insertion, et notamment un chantier d'insertion autour du jardinage et voilà. Vous n'avez pas peur de rentrer un peu en concurrence avec eux ?
En fait, oui, M. Carla, on le connaît, oui, on a appris à le connaître.
C'est le président.
Il a fallu le convaincre. Oui. Je sais que ça n'a pas été simple. Mais aujourd'hui, ce qu'il a compris, c'est que c'était du complet, qu'on ne prenait pas son activité et qu'il y a de la place pour tout le monde. Il fait partie de nos partenaires, hein, qui nous ont signé une lettre de soutien dans le dossier d'habilitation. Donc, c'est assez facile maintenant avec Régie Plus. Et de toute façon, tout le monde est utile. L'activité de Régie Plus est vraiment passionnante. Et nous, on n'a pas valeur d'insertion. On a valeur d'emploi. La cerise sur le gâteau quand même, en plus du CDI, en plus du temps choisi, c'est aussi que les personnes peuvent quitter leur emploi quand ils veulent, pour aller tester ailleurs. Voilà.
Et revenir.
Ils ont leur poste reste disponible. Donc ça demande une agilité encore plus grande du patron, là. Voilà. Et ça marche.
Pascal, on va peut-être...
Oui, on peut changer de sujet. Parce que là, on a parlé beaucoup de on a peu parlé de ces fameux patrons-là. Et c'est des patrons qui sont, du coup, bénévoles ou...
Ah non, c'est des patrons qui sont rémunérés.
D'accord.
Qui souvent ont une expérience en tant qu'encadrant, en fait, d'entreprises classiques, qui souffraient eux-mêmes, en fait, de faire des plans sociaux dans tous les sens et qui s'y trouvent très bien dans ce genre d'entreprise, en fait. Donc, on peut le voir, certains s'expriment et c'est un vrai bonheur, en fait, de les voir ne pas y croire au départ et finalement de constater que c'est possible.
Très bien. Eh ben,
faites un don.
Oui.
Oui, voilà. On le rappellera à la fin de l'émission.
Merci beaucoup.
Hein. D'autant plus qu'vous pouvez aussi écrire à communication@tz.
C'est impossible à dire.
tsv-co-op.org.
Non, allez sur la page Facebook, je serai là pour vous.
Ah. Très bien, on se fait une deuxième pause musicale courte. On va s'écouter Cadillac Game Over. Cadillac.
Je suis couché, les yeux fermés, y a plus de soleil, plus de réveil. C'est les vacances, les grandes vacances. Je dors debout, boulevard des allongés. Relax à la cool, dans ma cabane en acajou. Je me la coule douce, ici je repose. J'écoute des CD, des sons de l'au-delà. En mode silencieux comme si j'étais plus là. Je pousse des racines, des salades de pissenlit. Je mords la poussière, je vole ma chic. Je meurs pas de faim, j'ai perdu l'appétit. Y'a des croque-morts déchirés à l'eau de vie. Putain c'est mortel, franchement ça tue. Je suis comme dans un rêve avec le grand barbu. Avec lui pas de doute, pas de bouchon au mois d'août. C'est l'autoroute des vacances pour toujours. Je danse dans le corbillard, ça sent le sang, le sang. Là y'a des asticots Je danse dans le corbillard, ça sent le sang, le sang. Là, y a des asticots qui courent partout dans tous les sens. J'avance en mode crevard, en macabre et sans espoir. Je cherche pas les histoires, je suis tout en amour. Je danse dans le corbillard, ça sent le sang, le sang. Là, y a des asticots qui courent partout dans tous les sens.
These are the times that try men's souls. In the course of our nation's history, the people of have rallied bravely whenever the rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.
Voilà, de retour dans les studios pour cette dernière partie du Déo et Débat. Et donc, on change de sujet et on souhaite longue vie à Territoire Zéro Chômeur, longue durée, Sanitas Velpo. Et on va parler un petit peu du RSA avec Ursula Vogt, qu'on a déjà reçue plusieurs fois. François, parle-nous un peu.
Ursula Vogt, bonjour.
Bonjour François, voilà. Bonjour Pascal.
Conseillère départementale, d'Indre-et-Loire.
Tout à fait.
Et il se passe que le social, ça fait partie des missions du conseil départemental avec, on le sait, la protection de l'enfance, le handicap, les personnes âgées et puis les allocataires du RSA. Alors, ma question, elle est simple. Hein. Pourquoi est-ce au département de gérer le RSA, c'est-à-dire donc le versement d'allocations et le suivi des allocataires, alors que c'est l'État qui fixe les règles du jeu ?
Eh bien, merci François pour cette excellente question. C'est vrai que depuis les lois de décentralisation, depuis les années 80, la répartition entre l'État et les collectivités locales a fait en sorte que tout le domaine social maintenant est organisé par le conseil départemental. Alors, au départ, c'est une bonne idée, on va dire, puisqu'il s'agit de rapprocher en fait les citoyens et leur suivi pour qu'on soit plus près des réalités locales, puisque en effet, l'Indre-et-Loire est bien différent d'un autre département. Donc, au départ, une bonne idée. On va dire être très proche des préoccupations et aussi du contexte socio-économique de chaque territoire. Donc, une bonne idée. Au départ, avec évidemment les moyens liés à cette décentralisation, donc pour accompagner ces allocataires, des moyens mis en œuvre. Mais bien sûr, les années passant, d'autres problématiques émergent, avec notamment sur cette question du RSA, l'augmentation des personnes à accompagner et des budgets de l'État, c'est vrai, qui stagnent.
Alors, mais bon, c'est pas la première fois que l'État, je sais pas quel terme employer, mais enfin, en tout cas, utilise le même stratagème dans le cadre de la décentralisation. Il donne des missions et finalement, il arrête de financer une partie de ces missions.
Oui,
bon, en tout cas, il diminue la dotation, ce qui fait que ça rend difficile l'exercice des collectivités.
Alors, c'est vrai qu'on pourrait penser sur un autre champ de compétences du conseil départemental au suivi des personnes âgées ou des personnes avec un handicap. C'est vrai que vous n'êtes pas sans savoir ce défi démographique du vieillissement de la population. C'est vrai qu'au moment où les départements ont récupéré, on va dire, le suivi des personnes âgées, on était avec une population qui était moins vieillissante que celle que l'on a aujourd'hui et qu'on attend encore dans les années qui arrivent. Donc en effet, c'est pas tant que l'État se désengage, mais c'est que ces financements ne sont pas à la hauteur des enjeux actuels. Sur la pauvreté, c'est la même chose.
La Covid n'a pas amélioré les choses.
La Covid a permis des rallonges qui ont été très utiles au moment.
Non, je parlais plutôt de la la disparition d'une importante de personnes âgées.
François, je suis sûr que tu sauras poser des questions autres que celle de Pascal.
Ça, j'avais compris que c'était ça. Alors, je viens de le dire, s'occuper des allocataires du RSA, c'est bien sûr verser l'allocation RSA, 607 euros pour une personne. Mais c'est aussi assurer et garantir donc, un suivi ou encore on dit un accompagnement des personnes. Aujourd'hui, quel est l'état de l'accompagnement des personnes ? Par qui c'est fait ? Est-ce que c'est les travailleurs sociaux du département qui s'occupent de l'accompagnement ou est-ce qu'on délègue cette fonction à d'autres associations ?
Alors, c'est l'une des questions, en effet, fondamentales, puisque on n'a pas vocation à rester au RSA sur une longue période. Et l'idée, c'est d'en sortir, et d'en sortir le plus vite possible, puisqu'en fait, les gens arrivent à s'intégrer quand elles ne restent pas trop longtemps au RSA. Donc, cette question de l'accompagnement, elle est majeure. Sauf que, et c'est là que le bât blesse, finalement, cet accompagnement, il est défaillant. Il est défaillant globalement en France pour 40% des allocataires RSA. Alors, c'est un chiffre que j'ai du mal à vérifier dans le département d'Indre-et-Loire. Ça, c'est un chiffre national, chiffre de la Cour des comptes et chiffre encore donné par le ministre des Solidarités récemment. Donc, on peut dire que c'est quand même un chiffre étayé, en tout cas, qui représente sans doute une réalité. Alors, l'accompagnement, c'est en fait, les bénéficiaires d'un RSA ont droit à l'accompagnement. Un accompagnement qui soit adapté et qui soit, je veux dire, pas seulement sur la question de la formation, de l'emploi, mais aussi qui soit l'accompagnement social. C'est-à-dire que ça peut être un accompagnement sur le plan de la santé, sur le plan des difficultés familiales. Et puis, en retour, ils ont des devoirs. Ils ont donc le devoir de faire des démarches. Voilà, c'est ça l'accompagnement. Alors, je n'ai pas répondu à toute ta question, François. Tu as dit qui fait l'accompagnement. Donc, l'accompagnement, il peut être délégué à Pôle emploi, surtout pour les bénéficiaires qui sont les plus proches, justement, de cette possibilité de retourner sur le marché du travail. Ils peuvent être faits à l'interne, on va dire, par les travailleurs sociaux du conseil départemental, ou bien délégués à des associations prestataires qui accompagnent aussi et qui ont des conseillers insertion dans leurs effectifs.
D'accord. Sauf qu'à particulier, les jeunes de moins de 25 ans sont exclus du dispositif RSA. Oui. Alors que la tranche d'âge 18-25, ça a été encore pointé, je crois, par l'Observatoire des inégalités, mais aussi par le Secours catholique qui a travaillé sur cette question-là. Donc les 18-25 ans sont les plus touchés par la pauvreté monétaire. Est-ce que il y a, alors on sait qu'en Indre-et-Loire, c'est pas le cas, mais est-ce qu'il y a, donc c'est pas le cas en Indre-et-Loire, mais est-ce qu'il y a des départements qui ont commencé à réfléchir et à ouvrir la porte sur donc le RSA pour les jeunes?
Alors oui, alors tu as bien résumé. En effet, les jeunes sont les plus touchés par la précarité, par les difficultés d'insertion sur le monde du travail, par des parcours difficiles, pour reprendre Pascal et la Covid. Des problèmes de santé mentale, des problèmes de grande précarité qui les obligent à faire des files pour accéder à l'aide alimentaire. Donc, en effet, à ce jour, le RSA est réservé aux personnes de plus de 25 ans, sauf cas particulier. Alors, en effet, ça nous semble une grande injustice que les jeunes ne puissent pas bénéficier de ce filet de sécurité. Alors, à ma connaissance, un département, celui de la Loire-Atlantique, a mis en œuvre ce RSA, ce revenu jeune, comme il l'appelle, pour les moins de 25 ans. Il semblerait, à l'échelle d'une collectivité territoriale, le seul. La métropole de Lyon aussi a mis en place un revenu jeune. Voilà. Et après, une quinzaine de départements se sont positionnés pour tenter l'expérimentation. Voilà. Donc, en effet, nous aussi, on appuie beaucoup, beaucoup cette question.
Parce que ce n'est pas tellement un truc de droite de penser que c'est quelque chose qu'il faut augmenter.
Alors, en effet, Bruno Le Maire s'est exprimé récemment sur cet appel, hein, puisque souvent, des associations, des collectifs demandent à la mise en place de ce revenu jeune. Et le ministre répond, bon, en fait, quand on est jeune, ce qu'on veut, c'est travailler. Surtout, pas les habituer à l'assistanat, parce que franchement, ça serait désastreux pour leur parcours. Nous, on pense tout le contraire. On pense qu'il faut soutenir ces jeunes, il faut leur dire qu'on leur fait confiance. Aucun jeune n'a envie de rester toute sa vie au RSA, mais c'est le coup de pouce en fait dont ils ont besoin. Et puis, il existe d'autres dispositifs aujourd'hui. La garantie jeune a été remplacée par le contrat d'engagement jeune, mais c'est des dispositifs très courts sur la durée, comme s'il fallait 6 mois, 1 an hop, pour mettre les jeunes sur les rails. Mais non, il faut justement leur laisser du temps et surtout leur dire « on vous fait confiance ».
Le Parlement vient juste d'adopter, donc le mois dernier, la loi dite « pour le plein emploi ». Cette loi prévoit de demander aux allocataires du RSA d'effectuer 15 heures de travail hebdomadaire en contrepartie du versement de l'allocation. À l'occasion du débat parlementaire sur cette loi, le groupe LR, qui a voté pour le texte, a déclaré que notre système social actuel désincite au travail. Tu viens un peu d'en parler, mais qu'est-ce que tu penses de cette façon de voir les choses, donc, un système qui désincite au travail.
Oui, désinciter. Les gens au RSA sont des feignants, sont des fraudeurs aussi. On pourrait parler de cette grande question sur le... Voilà, et que de toute façon, donner une allocation aux personnes, c'est les maintenir dans un état, en effet, de passivité. Bon, alors, évidemment, on est complètement contre. Alors, j'allais dire, on a la chance d'avoir des grandes voix, des voix qui portent, hein, qui sont contre. Notamment Esther Duflo, cette femme brillante, prix Nobel d'économie, qui dit au contraire, quand on soutient les gens matériellement, quand on les aide financièrement, elles s'en remettent bien plus vite. Donc, non, on pense en effet qu'il faut soutenir les gens financièrement. Et sur cette loi dont tu parles, les 15 heures d'activité obligatoire, alors c'est vrai qu'on n'en connaît pas encore complètement les contours, puisque ça s'expérimente actuellement. Je ne veux pas être caricaturale et je ne vais pas parler de travail forcé, parce que ça, je pense que c'est exagéré. En revanche, ce que ça veut dire, c'est quand même que ça veut dire que les gens, on doit quand même les pousser à se bouger. Et ce qui nous alerte, c'est que d'ores et déjà, les bénéficiaires du RSA, ils se bougent beaucoup. Ils sont empêtrés dans des démarches, que ce soit des questions de santé, des questions de mobilité. Quand on habite dans le nord de l'Indre-et-Loire, c'est pas si simple de trouver un emploi. Il n'y a pas beaucoup d'emplois dans le nord-ouest du département. Donc, elles ont déjà du mal à trouver un emploi. Alors, je vois pas comment d'ailleurs ils vont faire pour faire ces 15 heures d'activité ou auprès de qui ça nous semble un petit peu difficile. Alors, après, que ce soit un accompagnement renforcé, pourquoi pas, dès lors qu'il est global, dès lors qu'il prend en compte toutes les problématiques de la personne. La découverte des métiers, des stages, de la formation, mais ce qui existe déjà, en fait, dans le bon travail qui est fait par les référents. La crainte qu'on a, en fait, c'est le côté un peu flicage, alors là, voilà, puisqu'on parle de sanctions remobilisation. Et là, en fait, les conseillers, d'ailleurs, sont assez inquiets, hein, parce qu'on va leur demander de pointer ces heures et de sortir les gens du dispositif si elles ne sont pas réalisées. Donc, ils ont peur que la relation qu'ils ont, une relation de confiance qui se noue doucement entre le référent et le bénéficiaire, se dégrade, parce que finalement, ils vont devoir enregistrer sur des plateformes qui fait quoi et pour combien de temps. Donc voilà, ça inquiète, ça nous inquiète et ça inquiète les professionnels.
Et si la personne ne trouve pas donc les 15 heures d'activité hebdomadaire, alors on l'a dit, les contours sont encore flous, mais donc c'est pour ça que c'est un peu peut-être prématuré d'en parler là ce soir, puisque là où le RSA conditionné a été expérimenté dans d'autres départements, c'est pas forcément un travail qui est demandé en contrepartie. C'est pas forcément un travail. Mais tu viens d'en parler. Mais si ça devait, si on devait sanctionner les personnes parce qu'elles ne trouvent pas, quelles seraient les conséquences?
Mais la suspension suspension de l'allocation, ce qui est gravissime, puisque ces personnes vivent avec 607 euros par mois quand elles sont seules. Suspendre le RSA, c'est plus pouvoir payer son loyer, c'est s'endetter immédiatement, s'endetter, c'est plus pouvoir payer son assurance. C'est tout de suite mettre les gens dans la grande précarité. Alors le RSA, c'est déjà pas terrible, hein, c'est sous le seuil de pauvreté. Mais si on le suspend pour un mois, deux mois ou trois mois, c'est mettre les gens dans la précarité. C'est envoyer directement les gens faire la queue au Resto du Cœur. Et après, c'est dire, bah zut, les Restos du Cœur ont trop de monde et on va les aider. Enfin, on marche sur la tête. Il faut soutenir ces personnes financièrement.
Bah, on est déjà au Resto du Cœur.
Oui, alors malheureusement, en effet, à 607 euros par mois pour une personne seule, on est largement sous le seuil de pauvreté. On va dire quand même que ça évite les personnes de tomber dans la grande pauvreté et ça leur permet quand même de se maintenir. Mais en effet, c'est pour ça, et merci de poser la question, Pascal, c'est pour ça que nous demandons l'augmentation du RSA. Alors on fait une proposition, notamment avec l'Observatoire des inégalités, hein, qu'on a la chance d'avoir à Tours, d'un RSA à 900 euros, ce qui nous paraît un peu plus digne pour chacun.
Alors qu'on parle fréquemment des métiers en tension, c'est très à la mode en ce moment de parler des métiers en tension. Alors on les cite, hein, la restauration, le bâtiment, l'aide à la personne, voilà, etc. Finalement, quels sont aujourd'hui les principaux obstacles à la recherche d'emploi et pourquoi on n'arrive pas à finalement fournir suffisamment de personnes pour occuper ces emplois qui sont dans les métiers dits en tension? Qu'est-ce qui fait obstacle?
Alors, le lieu commun, c'est de dire que les formations ne sont pas adaptées aux métiers qui sont proposés. Hein. Vous parliez vélo tout à l'heure, je crois. Et par exemple, hein, on sait très bien qu'il y aurait des postes dans les secteurs de la réparation de vélos et pas encore assez de personnes formées. On sait qu'on va avoir besoin de personnes dans la rénovation énergétique des bâtiments et peut-être pas encore assez de personnes formées. Donc, en effet, il y a cette question de l'adaptation des formations et des métiers. Bon, après, ça, c'est pareil, ça prend du temps. Pour mettre en place de nouvelles filières de formation, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On va dire que ça, en effet, ça peut s'arranger. Sauf qu'aujourd'hui, les gens, pour continuer sur notre sujet, sur les bénéficiaires au RSA, ce sont souvent des gens qui ont déjà des parcours de vie cabossés. C'est des jeunes qui n'ont pas eu la chance de faire des études, c'est des gens qui souffrent éventuellement d'handicap, qui souffrent de souffrances psychiques. Ce sont des femmes, beaucoup de familles monoparentales, donc essentiellement des femmes à charge d'enfants. Donc les obstacles à la remise à l'emploi sont très importants. Et donc ce n'est pas parce qu'on va décréter qu'il y a un emploi disponible à 20 km de chez soi qu'on va pouvoir y aller. Donc ça, c'est une vue de l'esprit, c'est du calcul arithmétique, mais c'est pas la réalité. Il y a d'autres freins à lever avant.
Alors, il y avait, pour finir, une de mes dernières questions, c'est le revenu universel, c'est-à-dire un revenu versé de façon totalement inconditionnelle, sans contrôle des ressources, ni exigence de contrepartie. Ce revenu universel qui avait été popularisé au moment des présidentielles, hein, avec Benoît Hamon, aujourd'hui, on en parle plutôt moins. Est-ce que ça te semble encore réaliste? Alors, tu viens de parler des 900 euros pour le RSA, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Il s'agit de revenu universel. C'est on rentre dans une autre philosophie. Est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste?
Alors c'est vrai qu'on mettait beaucoup de choses sous cette appellation revenu universel, revenu de base, beaucoup de choses. Alors ce qui est clair, et là encore, je vais parler de l'Observatoire des inégalités, de la prise de position de Le Morin qu'on connaît bien ici, mais évidemment, on ne va pas donner 500 euros à tous les Français par mois, c'est aberrant. Ça voudrait dire qu'on donnerait la même chose à celui qui touche le RSA et on rajouterait 500 euros au cadre qu'on n'a pas besoin. Donc il a fait des calculs en disant, voilà, ça c'est aberrant. Ce n'est pas ça qu'on souhaite, évidemment. Ce qu'on souhaite, par contre, c'est que ce filet de sécurité, garantir, comme l'a dit la Constitution, hein, à chacun le droit de vivre dignement dans notre pays, ça soit garanti. Donc, en effet, c'est une bonne idée et en tout cas à condition que ça soit fléché vers les personnes qui sont en précarité. Et puis ce qu'on peut dire pour aller dans ce sens, parce que c'est quand même une belle idée. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui travaillent gratuitement dans notre pays, notamment des gens au RSA. Il y a 13 millions de bénévoles. Il y a 9 millions de personnes aidantes qui s'occupent de leur enfant, qui s'occupent d'un conjoint malade, d'un parent vieillissant. Ceux-là, ils travaillent gratuitement. Tous les jours de l'année, 7 jours sur 7, c'est pas sur leur fiche de salaire, ça vaut rien pour la retraite.
C'est pas sur la retraite.
Et voilà, et ça compte pas pour le PIB. Et tout ça, c'est du travail gratuit. Pourtant, notre pays, c'est des activités qui sont vitales. Donc que ces gens-là puissent percevoir, je pense aux mères au foyer, qui sont dépendantes parfois d'un mari, qui puissent percevoir un revenu de base, qui valorise leur contribution à la société et qui puissent après leur donner droit à la retraite, ça me semble une idée généreuse que j'aimerais bien creuser.
Eh bien, merci. Merci Ursula pour cette dernière envolée, ma foi, qui nous a tous convaincus, hein, François.
Ah ben voilà. Je vote pour.
On va, avant de laisser la place à du blues, sinon rien, on vous remercie toutes les deux pour cette heure passée avec nous. Prochaine date d'EO Débat, normalement rien avant le 30 décembre. Mais le 30
avec
décembre...
Qui
Charles Fournier devrait venir nous parler un petit peu.
Vous avez des beaux invités.
Nous parler un petit peu de cette année folle législative parce que il sait quand même. Voilà, c'est déjà depuis hier soir, c'est encore plus drôle. Enfin bon, pas forcément super drôle parce que ça peut encore se terminer en beau caca de Bouddha.
Ouais,
hein.
Oui.
Bon, bref, on va pas faire notre NUPES, hein, François. On laisse la place à Franck pour du blues, sinon rien. Merci à Véro qui était à la technique ce soir.
Merci.
Merci beaucoup.
These are the times that try men's souls. In the course of our nation's history, the people of Boston have rallied bravely whenever the rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.